Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça, c'est la phrase la plus importante. Le Seigneur dit, afin que tout soit un, verset 21, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Dans notre imaginaire, dans notre héritage chrétien, nous pensons toujours, Seigneur, il faut que tu me donnes la puissance, que je fasse des miracles, que je fasse ceci, cela, que ça brille, afin que les gens croient. Mais lui-même, le Seigneur, lui dit que c'est quand ses enfants, ses disciples sont unis, c'est là que les gens vont croire. C'est lui qui le dit. Mais nous, c'est ce qu'on nous a toujours dit, et c'est ce qu'on a cru. On a cru que c'était la puissance que Dieu me donnerait qui ferait que les gens croiraient en lui. Or, là, lui, il dit, c'est quand les disciples sont unis, le monde croira. Et il ne le dit pas qu'à cet endroit. On va lire Jean 13, 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc il dit, les gens verront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez. Il n'a pas dit si vous faites des miracles, vous faites ceci. Pourtant, lui-même, il donne l'ordre. Il dit, allez guérissez les gens. Ressusciter les morts. Dites que le royaume de Dieu s'est approché. Mais il n'a pas dit que ça va influencer forcément la foi des gens. Mais il dit que là, ça va être clair que le royaume de Dieu s'est approché. Mais pour que les gens croient, il faut que vous puissiez vous aimer. Pour que les gens croient, il faut que vous soyez unis. C'est ce qu'il dit dans Jean 17. Donc, afin que les gens croient. Verset 21. Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, il y a un point d'honneur que le Seigneur met à l'unité. Il dit que c'est l'unité qui fera vraiment que les gens diront « Ça, ce sont les disciples de Jésus. » Et que c'est Jésus que Dieu a envoyé. C'est cette unité-là qui est un défi extraordinaire. Et je comprends davantage aujourd'hui parce que je me dis, c'est vrai que c'est facile, la division c'est facile, la guerre c'est facile, la colère c'est facile, on te fait un croche-pied, tu réagis mal, ça c'est facile. Ce qui est difficile finalement, c'est ce que le Seigneur se donne comme défi. Il dit, c'est l'unité qui prouvera que je viens de Dieu. L'unité de mes disciples. C'est ça qui est difficile parce que si c'est juste faire des manifestations, des miracles, mais lui-même dit dans Matthieu 24, 24 que le diable va faire aussi des manifestations, des miracles, au point qu'il séduira même certains élus. Donc le Seigneur ne base pas sa stratégie sur quelque chose que le diable peut faire aussi. Même si le miracle du Seigneur, comme on l'a dit dans d'autres interventions, les miracles du Seigneur sont réels, les miracles du diable sont illusoires. Mais c'est quand même des miracles parce que ça frappe les yeux. Voilà. Et il ne peut pas baser sa stratégie là où l'ennemi peut faire aussi quelque chose. Donc sa stratégie à lui, c'est là où l'ennemi ne peut pas toucher, c'est-à-dire une unité parfaite. On a dit hier que le royaume de diable n'était pas divisé, était dans une unité, mais ce n'était pas une unité parfaite dans le sens où c'est une unité imposée dans des buts de gagner. Mais on trouve déjà ça pas mal quand même. Oui, donc garder les gens unis dans le but d'atteindre des objectifs, c'est déjà pas mal. Hein. Donc on ne peut pas non plus dire que c'est raté. Non, c'est quelque chose qui aide. C'est ce qui fait d'ailleurs que son royaume avance. Mais ce n'est pas la vraie unité. La vraie unité tient de l'amour. C'est l'amour qui soude la vraie unité. Donc on ne va pas être dans une unité dictatoriale dans le but d'atteindre un objectif. Non, on veut la vraie unité, celle qui vient de l'amour, celle qui vient de la compréhension même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit, je prie qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Voilà. Mais sincèrement, je ne veux pas trop m'attarder sur cela parce que je pense que c'est quelque chose qui descend du ciel et entré dans chacun. Réaliser le Père et le Fils, cette unité-là, je ne veux pas expliquer des choses que la Bible n'a pas expliquées. La Bible présente ça. Moi aussi, je présente. Je vous dis tout simplement que c'est profond et que le Seigneur nous révèle cette unité-là entre lui et son Père. On va saisir vraiment ce que Dieu attend de nous, entre nous, frères et sœurs. Il dit qu'il soit un comme le Père et lui sont un. C'est important. La vraie unité, bien-aimée, ne peut s'obtenir que par le sacrifice. Et Jésus a obtenu cette unité en se sacrifiant. Il dit comme le Père et lui sont un. Mais oui, mais cette unité a été mise à l'épreuve. Quand il est à Gethsémané, il faut aller maintenant à la croix. Il a dit, Père, est-ce que tu ne peux pas changer de formule? Mais non, que ta volonté soit faite. Le Seigneur a résisté. Donc, il était prêt au sacrifice. Il était prêt à s'humilier. C'est ce qui a permis l'unité parfaite entre lui et le Père. Donc, il nous montre l'exemple que la vraie unité ne peut s'obtenir que par le sacrifice. Il faut que quelqu'un se sacrifie. La vraie unité ne peut pas s'obtenir quand l'autre est en forme, moi je suis en forme et il y a unité. Non, il va y avoir toujours un d'entre les deux qui va se sacrifier pour dire, bon, moi, je me laisse marcher, je me laisse effacer, je me laisse écraser, ou bien je m'offre. Tout simplement, moi je vais m'offrir afin que la chose fonctionne. La vraie unité, ça passe par cela. Donc il y a quelqu'un qui décide qu'il va payer de sa personne pour que cette unité fonctionne. Donc tant que personne refuse de payer, n'accepte de payer, il n'y aura pas unité. Il y aura des difficultés. Le Seigneur veut qu'on soit dans l'unité. Parce qu'il nous a laissés sur terre pour qu'on témoigne de lui. Et il est conscient que ce témoignage-là est fort lorsqu'on est unis. Il le dit, quand ils sont un, c'est là que le monde va croire en moi. Quand ils vont s'aimer les uns les autres, c'est là que le monde va me reconnaître en eux. Bien-aimés, vous savez, il y a des conseils que le Seigneur donne, des instructions qu'il donne. Il ne nous explique pas tout. Mais c'est lui l'inventeur de tout, c'est le créateur de tout. Il connaît les humains, il connaît leur cœur, il connaît comment ça fonctionne le cœur humain. C'est lui qui nous dit tout simplement, obéissons. Il nous dit que c'est dans l'unité que les gens croiront. Arrêtons de croire que c'est en ayant beaucoup d'argent, en faisant beaucoup de miracles que les gens croiront. Non, les gens peuvent croire juste pour profiter. Nous le voyons dans Jean chapitre 2. Il dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient cru quand il avait fait les miracles. Mais lui-même, il dit, il connaissait leur cœur. Il savait que c'était des fausses conversions. Il connaissait. Donc les gens peuvent s'approcher pour dire, oui, c'est puissant, mais ne pas se convertir. Mais il nous donne la clé. Il nous donne, il dit que quand vous serez unis, là, ils vont croire que vous êtes de moi. Parce que je vais devenir réel dans leur cœur à travers votre unité. Bien-aimés, comme nous l'avons dit dans les textos qu'on a envoyés par rapport aux prières, mais l'unité, c'est ça qui fait la solidité d'une chose, sa force. Ce complexe, ce bâtiment est composé de briques. C'est en les réunissant que ça fait ce bâtiment-là. Tout corps, je pense que ceux qui ont fait un peu de chimie, Mais les corps sont composés de molécules. C'est l'unité de ces molécules-là qui fait que, la cohésion de ces molécules qui fait que on puisse parler d'un corps solide. Un corps solide, c'est un corps dont les molécules sont compactes. Donc, elles sont unies fortement. Un corps liquide, c'est la liaison entre les molécules. Donc, vous allez, je vais vous prendre un exemple simple, c'est la glace. La glace peut être solide, l'eau peut être glace, solide, liquide et gazeuse. Donc, quand elle est solide, ça veut dire que les molécules de l'eau sont rassemblées les unes à côté des autres, c'est ce qui fait solide. Et quand c'est liquide, ça veut dire qu'il y a un éloignement entre les molécules. C'est ce qui fait le liquide. Et quand l'éloignement est encore plus grand, ça devient gaz. Donc, le gaz ne peut pas te faire reculer, mais essaie de donner un coup de poing à un bloc de glace, tu vas voir comment tu vas avoir mal, parce que c'est solide. Les molécules sont beaucoup plus unies que quand c'est liquide, que quand c'est gazeux. Donc c'est l'unité qui fait la solidité et la visibilité, la manifestation de quelque chose. Aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de parler, mes mains sont coordonnées avec ma bouche, tout va ensemble parce qu'il y a une unité dans l'affaire. Il y a le cerveau qui unit tout ça. Et c'est ça qui fait que je peux me manifester. Sinon, je ne peux pas me manifester s'il n'y avait pas cette unité. Si, vous imaginez les gens qu'on visite parfois, qui sont dans les hôpitaux, dans un état de léthargie, dans un état où le cerveau ne commande plus au corps. Donc, ces gens-là ne peuvent plus se manifester. Il n'y a plus d'unité. Le cerveau veut quelque chose, le corps ne suit pas. Donc, on ne peut pas savoir ce que la personne pense. Parce que ce que son cerveau dit, sa bouche ne suit pas. Il n'y a plus unité dans l'ensemble. Donc, ce corps-là ne peut plus se manifester. Donc, c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas unité, l'Église ne peut pas être visible. Donc, Jésus non plus, puisque Jésus, c'est la tête de l'Église. Ça fait un corps dont la tête est Christ. C'est important, bien aimé, l'unité. Que personne ne nous trompe. Si nous voulons être efficaces, c'est dans l'unité qu'on sera efficace. C'est dans l'unité que les gens croiront. Et vous imaginez, bon, beaucoup d'entre nous suivent le football. Est-ce que vous avez déjà vu que quelqu'un puisse gagner à lui tout seul les matchs? Même si tu marques 5 buts. Mais si tu n'as pas de défense, les autres vont marquer 8 buts. Donc tes 5 buts tombent dans l'eau. Ça ne sert à rien. Donc, tu as besoin des défenseurs. Il y a des matchs de finale qui se sont gagnés à 1-0. Oui, c'est toi qui as gagné. Bon, le monde, on te félicite, toi, parce que c'est toi qui as marqué le seul but. Mais oui, mais imagine que ta défense soit faible et que vous ayez encaissé 2. Ton but n'aurait pas compté. Donc, tu as besoin de tes défenseurs. On a besoin des uns des autres, de tout le monde. Ça, il faut comprendre ça, que c'est ça qui fait la solidité. La force est la manifestation, c'est-à-dire que la chose devient réelle quand il y a unité. Si chaque membre, vous imaginez, un bras tout seul, même si c'est un bras de 25 kilos, ça va faire quoi, un bras tout seul? On va marcher dessus. Le bras ne peut se manifester que quand il est uni au corps. C'est quand il est uni au corps, parce qu'il peut être tout seul, costaud. Mais c'est les chiens sauvages qui vont manger ça. Mais quand un tel bras est uni à un corps, quand le chien sauvage s'approche, le bras peut agir pour se manifester et éloigner le chien sauvage. Parce qu'il est uni à tout le corps. L'unité, c'est primordial. C'est l'individualisme qui nous fait oublier ça. On croit que seul on peut faire quelque chose et que... Mais non, c'est une apparence. C'est les quelques félicitations qu'on peut recevoir à gauche, à droite, qui peuvent nous donner l'impression que seul on peut faire quelque chose. C'est faux. Jésus dit, c'est quand on sera unis que les gens croiront. C'est clair. Même dans Éphésiens 4, quand on parle des apôtres, des docteurs, des prophètes, on explique que tout ça est uni. Nous allons lire ça dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, il est écrit, c'est lui qui a donné, à partir du verset 11, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité encore, de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, vous voyez les faiseurs des divisions. Regardez sur Internet, tous ceux qui créent des divisions, c'est des gens qui ne sont pas sous l'autorité d'un apôtre, d'un pasteur, d'un docteur. C'est des gens qui ont émergé tout seuls, ils bricolent. Et c'est des gens qui sèment la division partout, parce qu'ils ont lu beaucoup la Bible. Dieu a établi des gens pour maintenir l'unité. C'est important, cette unité-là, pour le fonctionnement de l'Église. Verset 14. « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine. » Donc, du gaz, quoi. On ne sera plus du gaz. On sera du solide. « Joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croitons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, voilà ce qui est dit, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie. » Et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Donc, Paul dit, le Seigneur Jésus est le centre. C'est lui qui réunit tout le monde. Donc, tout le monde est lié à lui et tout cela croit dans l'amour. C'est cette unité-là qui est nécessaire pour que nous puissions triompher des forces des ténèbres. Ne négligeons pas cela, frères et sœurs. Le talent que Dieu t'a donné n'est rien sans les autres. C'est rien du tout. Donc, arrêtons avec ces rêves de recevoir une puissance personnelle qui va bouleverser l'humanité, je ne sais pas comment. En réalité, le rêve toujours de prendre la place de Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y en aura pas d'autre. Ne cherchons pas à prendre sa place. Inscrivons-nous toujours dans le travail du corps du Christ. Nous verrons la gloire de Dieu. Inscrivons-nous toujours dans cette logique-là de travail d'ensemble. Nous verrons ce que Dieu va faire. Nous serons étonnés. Bien-aimés, c'est écrit, Éphésiens 4, 32, Actes 4, 32, 33. Actes 4, 32, 33. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est extraordinaire, mais c'est ça que Dieu veut atteindre, qu'on soit un cœur, une âme. Mais c'est clair. La suite, il explique, nul ne disait, parce que qu'est-ce qui fait notre différence? C'est que mes biens sont à moi, mes enfants sont à moi, ma maison sont à moi, c'est ça. Et quand on atteint le niveau d'une âme, d'un même cœur, ben finalement, ce qui est à toi n'est plus à toi. C'est ça la vraie unité. On ne peut pas parler, je me souviens dernièrement, le Seigneur m'a dit de ne pas regarder derrière parce que moi, j'ai une attitude toujours de vigile, de garde du corps. Je regarde toujours derrière. J'ai lu beaucoup de romans policiers quand j'étais petit, romans d'espionnage. Donc, je suis toujours dans la surveillance et je regarde souvent derrière. Et le Seigneur m'a dit, si tu crois vraiment que je te protège, ne regarde plus derrière. Voilà. On peut toujours dire, ah, le Seigneur me protège. Il est avec moi, mais tu regardes tout le temps derrière. Donc, le Seigneur m'a dit, si tu crois que je te protège, et c'était dans l'obscurité en plus, hein, ne regarde pas derrière. Voilà. Crois que je suis derrière toi. Alors, c'est facile de dire, mais nous sommes unis en Christ, mais il faudrait sacrifier quelque chose pour prouver cette unité-là. Et c'est ce qui est écrit là. Ils étaient qu'un cœur, une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Parce que c'est le bien de l'homme qui fait sa singularité. C'est quand quelqu'un possède quelque chose qu'il fait qu'il est différent de l'autre. Mais quand maintenant il considère que ce qui est à lui, c'est à tout le monde, c'est là qu'il fusionne vraiment avec l'autre. C'est ce que ces gens-là ont vécu. Avec une grande puissance, maintenant la conséquence, avec une grande puissance, les apôtres rendraient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Voilà la conséquence de l'unité. Et il continue l'explication en disant au verset 34, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. » C'est ce qu'on a lu dans Éphésiens 4. Jésus répartit les dons, les choses selon les besoins spirituels de chacun, de sorte que tout croisse dans l'amour, dans cette unité, on aille jusqu'au bout. Et c'est ce qui a manqué depuis des années parce qu'on nous a menti. On nous a prêché de chercher l'argent, de chercher la puissance pour faire des miracles. Et on a négligé la chose la plus essentielle, c'était l'amour et l'unité. Et que quand on est à ce stade-là, la gloire de Dieu se manifestera forcément. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Il dit qu'ils étaient une âme, un même cœur. Et cela se manifestait concrètement. L'apôtre Paul, bien-aimé, qui a été utilisé plus que Paul jusqu'à nos jours? Parce que Paul était utilisé dans toutes les dimensions. La parole, la prophétie, les miracles, l'évangélisation, tout. Mais Paul s'humiliait parce qu'il avait compris qu'il fallait que l'Église soit unie. Si l'Église doit être puissante, il faut qu'il soit uni. Paul allait toujours voir les Pierre, les Jacques et les Jean pour créer l'unité. Il ne voulait pas faire comme... Et pourtant, Dieu lui a donné la mission auprès des païens et les Pierre et les Jacques auprès des Juifs. Mais malgré ça, ils ne voulaient pas faire comme si, bon, eux, ils sont chez les païens. Et chez les juifs, moi, je suis chez les païens, je fais comme je veux. Non, malgré le fait qu'on lui a donné ça, ils reconnaissaient que les colonnes de l'église, c'était les Pierre, Jean et Jacques. Donc, ils devaient aller les voir en cas de mauvais témoignage où on a accusé Paul de quoi que ce soit. Pour clarifier certaines choses, afin que l'Église, même si elle est distante, Paul pouvait se retrouver à Tarse, il pouvait se retrouver à Rome, mais il fallait que l'Église de Rome et l'Église de Jérusalem soient dans la même ligne. Et c'est ce qu'il dit dans un autre passage, il dit, nous et eux, nous prêchons la même chose. Donc, Paul cherchait toujours l'unité avec les autres, alors que lui pouvait, par rapport à ce que Dieu faisait avec lui, dire, je m'en fous, je fais comme je veux. Mais il avait compris qu'il n'est rien sans l'Église dans son ensemble. C'est lui qui nous donne ces exhortations d'Éphésiens 4, verset 3. Conservez l'unité que vous avez en esprit. C'est lui qui nous donne toutes ces exhortations sur l'unité. Parce qu'il avait compris ça, c'est spirituel. Vous savez, il y a des choses que Dieu te rend claires à un moment donné. Tu comprends que, si je veux fonctionner, il faut que je sois en unité avec Pierre, Jean et Jacques. Même si on est à des kilomètres. Il faut que je sois en unité avec eux, parce qu'ils sont les colonnes. L'Église du Seigneur avance lorsqu'elle est, elle est solide, elle avance, elle est forte lorsqu'elle est unie. Et je suis en train de parler des vrais chrétiens, je ne suis pas en train de parler de l'Église visible où il y a tout à manger, à boire. Non, je parle des vrais chrétiens. Ils doivent être unis. Mais tout ça, comme il dit lui-même dans Éphésiens 4, avec le lien de la paix, nous devons apprendre à être des gens de paix, ne pas se précipiter à prendre des avis, ne pas se précipiter à condamner les gens, ne pas se précipiter à juger les gens, vouloir toujours construire. Nous devons être des constructeurs. Bien aimé, la plupart des passages bibliques sont liés à cela. Je résume en disant, bien aimé, que l'unité permet la solidité, ça permet la force, ça permet la manifestation d'une réalité. Sans l'unité, aucune réalité de cette terre serait visible. Les murs sont visibles parce que les molécules se sont réunies. Mon corps est visible parce que tout est ensemble. La terre est visible parce que tout s'est rassemblé. C'est toujours comme ça. C'est cette unité-là qui permet la manifestation de quoi que ce soit. Et à combien plus forte raison de l'Église du Seigneur. Et le Seigneur nous parle de nous humilier, de nous sacrifier. C'est important. Cette unité est obtenue par le sacrifice. C'est quand il y a le sacrifice que l'unité vient. S'il n'y a pas le sacrifice, les gens vont divorcer. S'il n'y a pas le sacrifice, dans la famille, les frères vont se séparer. Il y a toujours un sacrifice que quelqu'un qui a la maturité a compris. Je veux me sacrifier afin que les choses coulent. L'unité est permise lorsque les gens savent se sacrifier. lorsque les gens savent se dépouiller. C'est ce que le frère Paul explique dans 1 Corinthiens 6. Acceptez de souffrir pour qu'il y ait l'unité. Il le dit. Pourquoi vous voulez tellement avoir raison que vous allez même chez les païens? Donc, à un moment donné, même quand on a raison, on accepte de faire profil bas pour qu'il y ait l'unité, pour que l'ensemble fonctionne, pour que nous remportions la victoire. Et nous, bien-aimés, ce n'est pas seulement pour remporter la victoire, c'est parce que nous sommes. Hein, comme je dis, c'est un mystère que je ne peux pas expliquer ici. Dieu seul peut, doit parler dans notre cœur. Eh bien, nous devons avoir la même unité que le Père et le Fils. Ils ont une unité parfaite. C'est fort. Vous savez, à tel point que Jésus a dit, mon père et ma... Pourtant, c'est sa mère et ses frères qui viennent le chercher. Il dit, mais mon père et ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Jésus était dans un autre stade, dans cette notion-là que nous sommes en train d'expliquer là. Il était uni aux gens qui croyaient à la parole. Ce n'était pas une unité familiale, une unité plus que cela. Comme le Père et le Fils. Et ça, bien-aimé, je prie seulement que Dieu nous rende cela clair. Ça va nous changer. On va voir les chrétiens autrement. Donc ça, c'est le stade maximal. Ce qui fait dire aux gens de Actes des Apôtres 4, 32, 33, ils étaient comme une âme, un même cœur. Tout ce groupe de gens-là, plus de 5000 personnes, mais ils étaient comme une seule personne. Tellement ils étaient unis. Et Dieu a manifesté sa gloire d'une manière extraordinaire. C'est ça qui manque aujourd'hui. L'égoïsme tue l'Église. L'individualisme. On doit s'envisager soi-même dans l'ensemble, pas seul, et venir se rajouter aux autres. Non, on est dans cet ensemble. J'envisage mon avenir dans l'ensemble, bien-aimé. Dans l'ensemble que Dieu a choisi. Pour moi, le corps du Christ, j'envisage mon avenir comme ça. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Et cela est possible quand on a compris certaines choses. Vous savez, j'ai eu un moment, une décision à prendre. Parce que ma mère, quand elle est morte, elle a laissé des choses. Elle aurait bien souhaité que j'aille m'en occuper, mais j'étais déjà dans le corps du Christ et j'ai pris la décision de rester dans le corps du Christ parce que Jésus avait pris la même décision. Et ça arrivera aux vrais chrétiens de prendre la bonne décision, celle de favoriser l'unité en Christ plutôt que l'unité du monde, même si elle peut être forte aussi. Donc nous allons vraiment prier que le Seigneur nous amène à ce niveau-là, comme il dit, qu'il soit un comme Père et toi et moi nous sommes un, à un niveau très élevé d'unité, pas juste de cohabitation. On doit refuser la cohabitation, on doit être dans l'unité, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de te manifester avec puissance, pour nous changer, parce que c'est un miracle qui ne peut venir que de toi. Quand tu dis dans Actes 1, 8, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins, ce n'est pas la puissance seulement pour parler en langue ou pour faire des prophéties, c'est vraiment pour vivre l'évangile, une puissance qui allait dissoudre l'égoïsme, qui allait dissoudre l'individualisme, qui allait dissoudre le moi, pour créer une fusion qui allait faire passer la puissance du Saint-Esprit qui change les temps et les circonstances. C'est ainsi que dans les Actes des Apôtres, il y a eu un bouleversement dans le monde. Parce que le peuple de Dieu était ensemble, uni. Ta puissance a pu se dégager au point que l'ombre de Pierre a pu guérir des gens et les vêtements que Paul avait laissés. Seigneur, purifie-nous des fausses doctrines qui ont insisté sur le bénéfice individuel, où chacun priait pour avoir une puissance personnelle, des dons spirituels personnels. C'est toujours personnel. Ce sont les fausses doctrines qui nous ont entraînés à cela. Aujourd'hui, nous demandons le baptême du Saint-Esprit, pas pour moi personnellement, mais pour toute ton Église, Seigneur. Parce que tu nous veux ensemble, fonctionner ensemble. Merci, Seigneur, de nous purifier des anciennes conceptions. Seigneur, toi, tu as dit par rapport à ta mère. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, la mettent en pratique. Tu te sentais tellement uni aux frères et sœurs. Ton unité, cette unité était plus forte que les liens de sang, Seigneur. À tel point que le jour de à la croix, tu as dit à Jean, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. Pourtant, tu avais d'autres frères et sœurs. Oh Seigneur, aide-nous à entrer dans cette dimension-là. Parce que Seigneur, nous n'avons pas cru pour rester médiocres. Nous avons cru pour vivre l'excellence. Merci Seigneur d'agir. Transforme-nous par ton esprit. Au nom de Jésus, nous nous attendons à toi Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses-là. Et à oublier nos possessions, à les considérer comme communs à tous. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous savons que tu vas changer, tu vas nous changer. Tu nous as déjà changés. Et cela va aller toujours encore plus loin parce que tu t'apprêtes à revenir récupérer une église parfaite. Merci, Seigneur. Nous sanctifions tout ce que nous allons prendre pour clore le jeûne. À toi la gloire, la louange pour tout ce que tu vas faire encore demain. Merci Jésus. Amen.